Swing Time 2020. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Yacht Club de Limoges. Swing Time, préparé et présenté aujourd'hui par Alain Charbonnier.
C'est présent.
Et quand Alain Charbonnier est là, Dominique Gouguet n'est pas loin.
Il est ici.
Vous avez deux experts là, au bout de la, sur la FM de jazz.
Et on dit bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour everybody.
Les amateurs de jazz, les amatrices aussi, tout
aussi.
Le monde.
Alors aujourd'hui le thème.
Alors aujourd'hui, eh bien, c'est un musicien qui est un peu aux frontières du jazz, puisqu'il s'agit de Quincy Jones, et j'ai sous-titré cette émission « Un touche-à-tout à écouter », parce que Quincy Jones a touché à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects du show business, et un petit peu au jazz. Alors on va prendre que cette petite facette-là, ça va être pas bref dans l'émission, parce que j'ai trouvé mes 18 titres habituels, évidemment, mais c'est sur une période précise de sa carrière, évidemment. Donc je vous disais que Quincy Jones a touché, puisque c'est un touche-à-tout, au jazz qui swing, et c'est essentiellement dans les années 1950. Il a aussi composé beaucoup, il a arrangé beaucoup, il a produit beaucoup pour toutes sortes d'artistes, pour des films, pour la télévision, mais il a fait aussi la musique que nous défendons à Swing FM, donc il avait sa place dans les fameux Swing Time. Quincy Jones est un trompettiste, un compositeur, un arrangeur, très compétent, et vous allez en avoir la preuve. Il est né le 4 mars 1933 à Chicago, mais il a passé son adolescence à Seattle, donc sur la côte pacifique, tout à fait à l'ouest, et il a côtoyé entre autres musiciens à Seattle, Ray Charles, qui était alors jeune et débutant, et c'est là aussi qu'il a découvert le jazz et qu'il a croisé le chemin d'un autre grand jazzman, mais beaucoup plus grand, c'était Lionel Hampton. Je signale même que Lionel Hampton l'a engagé alors qu'il n'avait que 15 ans, Quincy Jones, donc il est venu. Sauf que Gladys Hampton, c'est l'épouse et le manager de Lionel et de l'orchestre, évidemment, eh ben, a trouvé que ce n'était pas bien sérieux et il lui a fait retourner vers le lycée. Donc Quincy Jones a fait une première arrivée, fausse d'ailleurs, une fausse entrée. Lorsqu'il avait 15 ans, il reviendra plus tard dans l'orchestre de Lionel, mais c'était pour lui une très cruelle déception, évidemment. Mais je vous dis, il va travailler pour Lionel Hampton, il va travailler aussi pour Ray Charles. En France, en 1957, il a travaillé pour un ami du temps de la guerre de Jean-Marie Mas, puisqu'il a travaillé pour Eddie Barclay. C'était en 1957. Quincy Jones a aussi côtoyé et travaillé avec Count Basie. Il a monté son propre big band qu'on va écouter. Donc, je rappelle à tout le monde que Quincy Jones, c'est pas simplement le producteur de Thriller, l'album de Michael Jackson, qui est pas tout à fait la musique qu'on écoute et qu'on diffuse ici, évidemment. On va écouter le meilleur du meilleur pour nous, à Swing FM, évidemment, le meilleur du meilleur de Quincy Jones. Et on va commencer par une interprétation qui résume mon propos, quelque part, qui est surtout emblématique de Quincy Jones comme compositeur, comme arrangeur, comme directeur de casting. Il a choisi tous ses musiciens. Ce titre est tout simplement « The Birth of a Band », la naissance d'un orchestre. C'est un disque Mercury, comme la plus grande partie des morceaux, même tous les morceaux qu'on écoutera aujourd'hui, s'est enregistré à New York le 16 juin 1959. We'll be right back. on se rend compte que c'est un arrangement méchamment structuré, celui-là. Hein. Mais on avait aussi des saxophonistes qui étaient sans doute trop pressés, marqués par le bop. De toute façon, Quincy Jones adorait le bop et toutes sortes de musiques. Donc, pour ça que je disais qu'il était un touche-à-tout. La rythmique, eh bien, elle s'appuyait sur un grand contrebassiste, qui est Ray Brown, qui a été un grand ami de Quincy. Et à la batterie, c'était Don Lamond, mais on verra qu'il y avait d'autres batteurs beaucoup plus connus qui ont joué pour Quincy. Donc c'était le titre emblématique des tout débuts de Quincy Jones dans le monde du jazz. Et quand le big band de Quincy Jones veut swinguer à 100%, même au-delà, cela ne lui pose aucun problème. En voici la démonstration avec deux interprétations coup sur coup qui font référence au meilleur des grands orchestres swing. D'abord celui d'Erskine Hawkins, puis celui de Count Basie. Jugez-en avec tout d'abord Tuxedo Junction, enregistré à New York le 9 février 1959, puis Tickle Too, ça c'est Basie évidemment, toujours à New York le 28 mai 1959. We'll be right back. C'est ça, Swing FM, Dominique.
Il me semble,
mais évidemment. Alors, je vais tout de même donner quelques noms de musiciens qu'on a entendus. Un certain nombre sont très connus. Dans le premier titre, on a écouté à la trompette Harry Ellison, très reconnaissable. Le pianiste, un peu façon Count Basie, il est beaucoup moins connu. Il s'agit de Mo Weischler. Au ténor, très connu, très puissant, très swingant, Sam the Mind Taylor.
Ah, oui.
Et la section rythmique, comme toujours à l'époque chez Quincy Jones, ce sont des bons. Milton Hinton à la contrebasse, Jimmy Crawford à la batterie. Et dans le second titre, donc le morceau qui faisait référence au Count Basie Orchestra, on avait non pas un trompettiste au départ, mais un bugle avec une sonorité plus mate. C'était Clark Terry, un grand copain vraiment de Quincy Jones. Et il a eu beaucoup de copains qu'il a gardé toute sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est en amitié très fidèle. Il est témoin avec ses femmes. C'est pas qu'il les aimait pas, mais il en aimait plusieurs. Voilà. Mais avec les copains, il en aimait plusieurs, mais c'est pas pareil. Enfin, je digresse. Ça, on l'efface au montage, évidemment. Donc, on a eu Clark Terry au bugle. Un trompettiste qui suivait, mais très reconnaissable, c'était Joe Newman. Au saxo ténor, un type un peu lestérien, mais qui va venir cool et West Coast. Donc, il va nous échapper dans très peu de temps. C'est Zoot Sims. Et puis, au saxo baryton, Sahib Shihab. Plus, eh bien Milton Hinton, qui est toujours là, et un batteur qui n'est pas mauvais du tout, puisqu'il s'agit de Sam Woodyard. Ça pulsait, évidemment. L'arrangement du deuxième titre, il n'était pas de Quincy Jones, il était de Al Cohn. On remarque que Quincy Jones savait s'entourer, lui qui a côtoyé vraiment beaucoup, 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 et encore plus de personnalités du jazz et des autres musiques. Alors, avant de connaître d'autres facettes de Quincy Jones, je voudrais vous faire apprécier un dernier titre de cette fameuse année 1959. Donc, on est toujours à New York. On est le 10 mars 1959. Et on entend un morceau qui s'intitule « A Change of Pace ». Thank you. C'était à la fois une composition et un arrangement de Quincy Jones. Donc une musique tout à fait à son image. Petite remarque, il y avait deux batteurs dans ce morceau. Deux batteurs, il y avait Jimmy Crawford qu'on entendait sur le canal de gauche, un peu moins fort d'ailleurs, et Ozzy Johnson sur celui de droite. Et comme on va tous réécouter l'émission après un podcast, on se rendra compte qu'ils jouaient exactement la même chose, donc que personne ne s'étonne quand on voit un batteur avec une partition. Effectivement, ils jouent une partition, même s'ils peuvent improviser. Et si on réécoute, tout le monde va réécouter l'émission, Martine, on est d'accord?
Évidemment.
Évidemment.
C'est fait pour ça. Hein.
Voilà, et bien comme ça, on va se rendre compte. Jimmy Crawford à gauche, Ozzy Johnson à droite, et puis je vais citer les deux solistes. Le premier, tout le monde l'a reconnu, on l'avait entendu tout à l'heure, c'est Harry Edison à la trompette, et le saxo alto, c'est Jerome Richardson, encore un copain de notre ami Quincy Jones. Ces enregistrements de 1959, ceux qu'on vient d'entendre, ont été promu ou promotionné, comme on dit en publicité, par Count Basie. Promotion, promotionné en publicité, hein, c'est bien ce qu'on dit.
Je ne sais pas si on dit ça, mais enfin.
C'est pas beau, hein, mais c'est comme ça qu'on dit. Ah, mais c'est promu. Hein.
Oui.
Voilà. Mais en tout cas, soutenu, voilà, on a trouvé
c'est
le
mieux.
Bon mot, soutenu par Count Basie lui-même. Et on sent dans cette musique un petit côté basien tout de même, hein, Dominique.
Oui, absolument.
On a cette petite influence. Cher. Et c'est donc pas étonnant que Quincy Jones soit devenu un compositeur et un arrangeur pour Bill Basie, le Count. Et voici un exemple d'un morceau gravé à Paris le 5 mai 1962. Je prends mon élan. Le titre, I Need to Be Beed With. Thank you. à propos du clavier, qu'est-ce que tu as remarqué, Martine?
C'est qu'il était au bout du clavier, il n'y avait, plus de notes.
Il n'y avait plus de notes. En fait, il ne lui ferait pas 88 notes, il en ferait 20 plus, 108. Il faut, voilà, il faut absolument inventer un piano de 108 notes pour Count Basie, évidemment.
Et tu me disais qu'il avait des doigts quand même qui prenaient de la place sur les touches.
Ah oui, oui, il avait des doigts un petit peu, un peu ronds tout de un même, le petit bonhomme était rond. Et puis ça, voilà, ça voletait sur la, voilà, sur le... sur le clavier, c'était très, il était très très beau à voir quand il pianotait. Et Dominique, tu as aimé ça, j'espère.
C'est un solo de Count Basie qui est extraordinaire, très très chouette sur le blues. Et celui d'Harry Cocker est pas moins bon.
Ah, il est très bien au trombone, hein. Très très bon, effectivement. Et on avait un bon contrebassiste qui était son contrebassiste de l'époque à Count, c'était Eddie Jones, Sonny Payne à la batterie et tous les Basie's Boys qui étaient derrière. Eh bien, la collaboration entre la musique de Count Basie et l'art de Quincy Jones va durer bien au-delà de la mort du Count, puisque au XXIe siècle, le jazz est une musique actuelle, comme on dit, et vivante. Au XXIe siècle, sa musique court toujours. Et on va écouter, pour le prouver, Jessica's Day. Et c'est enregistré à New York aux alentours de 2009. C'est le disque le plus récent dont on ne connaît pas bien la date. Thank you. un disque de 2009, donc, avec à la flûte le vétéran Frank Weiss, un ancien de chez Basie, et à la batterie, ben, un excellent batteur qui est aussi passé par l'orchestre de Count Basie, c'était Butch Miles. On va rester dans l'esprit de Count Basie. En 1963, la firme Verve de Norman Granz réussit un coup fameux. Elle fait enregistrer tout un album par Ella Fitzgerald, accompagnée par le big band de Count Basie, dont la direction et les arrangements sont confiés eh bien, au jeune Quincy Jones, qui à l'époque a tout juste 30 ans. Et on va écouter un morceau qui s'intitule « Did I Do New York » le 16 juillet 1963.
Do I want you? Oh my, do I, honey? Did I do? Do I need you? Oh my, do I, honey? Did I do?
Profiter de la belle section rythmique de Count Basie, il y avait Freddie Green, Buddy Catlett, encore un vieux copain de Quincy Jones à la contrebasse, et Sonny Payne qui était à la batterie. Ce n'était pas la première fois que Quincy Jones s'était attaqué au jazz vocal avec des stars du genre. Un exemple qui va faire plaisir à Dominique, je le sais d'avance, c'est avec Dinah Washington.
Absolument, mon cher.
Et voilà, il est déjà content. Je te préviens, elle est en petite formation. Je voudrais qu'on écoute bien les paroles vers la fin parce que ça va rappeler quelque chose. Le titre du morceau, c'est « Makes Mine Love Me ». Tout un programme qui correspond bien à Dinah Washington, qui aimait les hommes. Quincy Jones aimait les femmes, un but partout. On est à New York le 15 mars 1955.
I must try to make the man love me. Make the man love me now. By and by I'll make the man happy. 'Cause I know how. He must know how badly I want him just as he is. Can I say that be. All the beauty I see so clearly. Oh, why can't he? So I pray to heaven above me. As I love him. This way, I've got it bad, and that ain't good. Can I tell the man just how dearly blessed we could be? All the beauty so clearly, why can't he? So I pray to heaven above me. Pray as the day grows dim, far away, to make the man love me as I.
C'est une réussite, ça finit par I love him. Donc ça a marché évidemment. Tout le monde a aussi remarqué qu'elle chantait à un moment donné I got it bad and that ain't good. Petite référence à la musique de Duke Ellington évidemment. Dans l'octet, les huit musiciens bien sûr qui accompagnaient Dinah, il y avait le mentor de Quincy Jones qu'on a déjà rencontré aujourd'hui, Clark Terry, qui était tout doux à la trompette. Au saxo ténor, très très listérien, c'était Paul Kilichette. Au piano, Wynton Kelly. Et au trombone, un petit peu mou, c'était Jimmy Cleveland, qui est aussi un sacré pote de Quincy Jones. Ils étaient ensemble dans l'orchestre de Lionel Hampton, d'ailleurs. Et ils ont fait un peu les 400 coups, mais on peut le dire, il y a prescription. Maintenant, et Gladys Hampton, même si elle l'a su, elle n'est plus là pour le reprocher, évidemment. On va rester avec Dinah Washington et Quincy Jones, mais celui-ci est à la tête de son grand orchestre, il a 26 ans, et on va se rendre compte qu'il assure déjà, en dirigeant une phalange de cette importance, avec de sacrés musiciens tels que Jimmy Crawford à la batterie, Ernie Royal, Charlie Chevers et Clark Terry dans la section de trompette, rien que ça. Et ça s'intitule, encore une histoire d'amour, mais pas la même que tout à l'heure, « You Let My Love Get Cold, New York, 21 novembre 1956. Encore un bon disque tout de même.
Fameux.
Il est fameux. Alors à propos de fameux disques, j'ai une petite dédicace à faire. Alors ça s'adresse à Frédéric et à Marie. Ils vont se reconnaître évidemment. Parce qu'ils nous ont fait parvenir d'excellents CD de jazz qu'ils ont trouvé sans doute au fond d'un grenier, on ne sait pas où. Mais ces CD de jazz sont excellents, donc on les remercie. Oui. On va pouvoir les inclure dans notre base de données, évidemment. Grand merci Marie, grand merci Frédéric,
absolument.
Voilà qui
merci
est dit.
Merci beaucoup.
Merci. Et on va nous continuer avec Quincy Jones. Et comme on en était à Dinah Washington, ben comment ne pas penser à Lionel Hampton, puisque Dinah fut la chanteuse de Lionel. Et ce fut pour Quincy Jones la première grande collaboration artistique avec Lionel Hampton, j'entends, en tant que trompettiste de pupitre, un peu soliste aussi, et d'arrangeur. Et on va écouter ses débuts prometteurs avec ce Gabby's Gavin enregistré à Los Angeles le 17 octobre 1941. Thank you. la partition était signée Quincy Jones et sans doute que Lionel a rajouté aussi sa signature. Donc il y avait deux auteurs, Quincy Jones et Lionel Hampton. Le solo d'alto moyen, c'était Gilles Bernal. Et à la batterie, le batteur à l'époque de Lionel, Ellis Barty. Une autre grande participation de Quincy Jones avec une autre grande vedette de jazz, c'est son accompagnement de Nat King Cole en Suisse en 1960. Eh bien, je vais vous emmener pour le 1er mai 1960 à la Maison des Congrès ou au Palais des Congrès de Zurich, Congress House, pour écouter un blues qui s'intitule Joe Turner's Blues, je dirai après les circonstances. Joe Turner's Blues.
You never miss the water till your well runs dry. Till your well runs dry. You never miss Joe Turner till he says goodbye. Sweet babe, we're gonna be here and the time ain't long. No, the time ain't long. If you don't believe I'm leaving, count the days I'm gone. You will be sorry from your heart. Sorry to your heart. Someday, when you and I must part, and every time you hear a whistle blow, you hear that steamboat blow, you think of a departure. Be sorry from your heart. Sorry to your heart. Someday when you and I must part, and every time you hear a whistle blow, hear that steamboat blow, you'll hate the day you lost your. Yes, you'll hate the day you lost your show. Sorry from your heart. Sorry to your heart. Someday when you and I must part, and every time you hear a whistle blow, hear that steamboat blow, you'll hate the day you lost your. Sorry from your heart. Sorry to your heart. Someday when you and I must part, and every time you hear a whistle blow, hear that steamboat blow, you'll hate the day you lost your. You'll hate the day.
On nous a chanté la fin. Alors, on entend une petite locomotive. C'est oui. assez logique parce que le personnage de Joe Turner est lié au chemin de fer dans l'histoire populaire des Noirs américains. C'était un succès, on a bien entendu. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance hein, parce que King Cole enregistré avec un big band, ça, c'est pas fréquent. C'est en fait une tournée... et plutôt une rencontre même, qui a été organisée par Norman Granz, parce que la tournée de Quincy Jones, qui présentait une sorte de comédie musicale en Suisse, en France, enfin en Europe, qui s'intitulait Free and Easy, ne marchait pas très bien. Pour pas dire ne marchait pas du tout, évidemment. Alors, quand on a annoncé au public que King Cole, qui arrivait en trio, allait être accompagné par un grand orchestre, celui de Quincy Jones, les gens ont rouspété tout de même, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, hein, les Suisses. Mais les Suisses, ils rouspètent gentiment, donc ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Puis, ça a été un succès, ça on en a eu la preuve à la fin. Donc c'était un enregistrement pas très bien enregistré, mais c'était une rareté, donc on se le dise, ça sert à quelque chose d'écouter Swing Time. On écoute des morceaux très rares. Et je signale que c'est paru en disque, en CD, il y a peut-être 5-6 ans, pas plus. Hein. C'est très récent, ça n'avait pas été édité, peut-être pour des raisons techniques, mais au moins c'est une rencontre remarquable. On va en trouver une autre rencontre remarquable entre Quincy Jones, arrangeur, et un chanteur, qui est un chanteur que j'ai évoqué tout à fait en début d'émission, puisqu'il s'agit de Ray Charles. Donc Quincy Jones a rencontré Ray Charles quand il avait 14 ans, et Ray Charles en avait 16. Mais c'était déjà un gars qui était un peu lancé. Et Quincy Jones admirait Ray Charles parce qu'il avait de beaux costumes, de belles nanas, et il avait une chaîne haute fidélité, ce que Quincy n'avait pas à cette époque, évidemment. Je ne sais pas si on le laisse au montage, ça aussi, il ne faut pas le dire.
On le laisse au montage,
c'est mignon, oui, c'est très mignon. Voilà. Eh bien, on va écouter la rencontre Quincy Jones-Ray Charles dans le célèbre album qui s'intitule, c'est une addition, hein, mais une addition littéraire. C'est des mots qu'on ajoute. Genius, more plus soul, égal jazz, bien sûr. Deux titres vous sont proposés, messieurs et mesdames. Les auditrices et les auditeurs, d'abord quelqu'un qui nous vient du cœur ou quelque chose, ou un morceau qui nous vient du cœur, From the Heart, c'est un disque enregistré le 26 décembre 1960, et après on va sortir de la ville, puisque ça s'intitule I'm gonna move to the outskirts of town, et c'est la même séance.
on the outskirts of town. I'm gonna move, baby, way out on the outskirts of town. You see, I don't need nobody always hanging around. Let me tell you, honey, we're gonna move away from here. I don't need no ice man. I'm gonna get you a Frigidaire when we move. Way out on the outskirts of town. Well, you see, we won't need nobody. Always hanging around. Can be if we have a dozen children, you know they all better look like me when we move way back of town. Oh, we won't need nobody always.
Je pense que tout le monde a aimé cet orchestre, y compris avec un trombone basse à la fin. C'est pas souvent qu'on entend un trombone basse. Eh bien, l'orchestre en question, c'était celui de Count Basie, moins le chef, évidemment, parce que c'était Ray Charles qui tenait les claviers, qu'on a entendu d'ailleurs en solo d'orgue dans les deux titres qu'on vient d'entendre. Dans le premier morceau, le trompettiste assez stratosphérique, c'était Philippe Guilbeault, le grand soliste de l'orchestre de Ray Charles. Et puis, dans le deuxième morceau, on a entendu pas mal à la trompette Clark Terry, à la trompette et pas au bugle. On vérifiera tout à l'heure quand on va réécouter l'émission entre le bugle et la trompette, c'est pas pareil. La section rythmique était aussi reconnaissable avec Freddie Green à la guitare, Eddie Jones à la basse et Sonny Payne à la batterie. Maintenant, on va écouter une surprise qui date de 1953. On fait un petit retour en arrière. Donc, Martine, tu reviens en arrière sur l'échelle des temps. Voilà, c'est bien. Eh bien, en 1953, Quincy Jones se trouvait en Europe avec l'orchestre de qui ? De Lionel Hampton, bien sûr, parce que ce coup-ci, il était grand. Il a été embauché. Et puis, eh bien, pendant qu'ils étaient notamment en Suède, mais ils ont été en France, en Suisse, etc., eh bien, ils ont mené quelques aventures musicales. Alors, Lionel, il s'en fichait complètement. Les gars, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Par contre, Gladys, elle veillait au grain. Donc, elle les surveillait, les gars. Elle essayait de les enfermer, mais ils passaient de toute façon pas par la porte, mais par la fenêtre. Et donc, bah, ils faisaient la malle, ils faisaient le mur. Ils allaient jouer Ils allaient enregistrer ailleurs, évidemment. Alors, la Suède, c'est aussi un pays où le jazz est bienvenu et bien servi, y compris avec de bons musiciens locaux. C'était le cas à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui. On va écouter dans un premier temps le big band suédois de Harry Arnold, que personne ne connaît et que maintenant tout le monde va connaître, et qui est devenu encore un copain de Quincy Jones, mais il a des amis partout et des amis solides. La musique a été composée, bien sûr, par Quincy Jones et puis le fameux tromboniste avec lequel Quincy faisait les 400 coups, Jimmy Cleveland. Ils sont donc tous les deux sortis de leur chambre d'hôtel. Ils sont passés par la fenêtre et le 10 novembre 1953, à Stockholm, ils enregistrent Count 'Em. Martine, je vais dire au monde entier, à tous les petits cats, tous les petits chats qui nous écoutent, les dames et les messieurs évidemment, que Dominique a bien vérifié que tu avais pris le bon disque, que ce n'était pas un disque de Count Basie. C'était bien le grand orchestre, pas très connu, on est d'accord.
Il fallait le trouver, Harry Arnold.
Le grand orchestre d'Harry Arnold, elle, voilà. Hein. Un Suédois. Et alors, je suis obligé maintenant de préciser le nom de chacun des musiciens, en prenant bien mon élan, en m'appliquant, parce que je parle très mal le suédois.
J'espère que tu prononceras quand même bien.
Eh bien, tu me diras si j'ai bien prononcé le suédois après.
Mon cher Alain.
Ça a une connotation un peu germanique tout de même. Le pianiste, donc ce n'était pas Count Basie, mais Bengt Ahlberg. Le trompettiste, c'était Bengt Arne Wallin, ou Wallin. Et ces musiciens-là, les trois que j'ai cités, c'est resté à nouveau les meilleurs amis du monde avec Quincy Jones. Donc il y en a des amis, hein, Quincy Jones. Et bientôt, il aura tous les auditeurs de Swing FM comme amis. Il va être content, le Quincy, évidemment. On va revenir à l'orchestre même de Quincy Jones et à ses meilleures années pour le jazz. Voici un autre de ses arrangements avec une recherche maximum de swing. On est à New York le 26 mai 1959. On est aux bonnes places. Ça s'intitule « Happy Places ». Batteur Martine ?
Oui.
Quel était le batteur ?
Samoudiarn.
Mais bien
je
sûr, elle a, voilà, le très très bon, le très grand Samoudiarn. Au saxophone alto, un gars nettement plus moyen, tout de même, c'était Phil Woods. Et puis, je voudrais signaler que Quincy Jones, étant un homme à femme, il avait une pianiste avec un E à un et un E à pianiste, une femme.
De toute façon, on a un.
Voilà. Ah, il y en avait un. Ah, ben oui, alors c'est pour ça. Bon, mais en tout cas, elle s'appelle Patty Brown, ça je l'affirme. Et quand je dis que c'était un homme à femme, c'est pas un secret d'État, parce que si je prends la face visible de l'iceberg, c'est tout de même 5 mariages, 7 enfants. avec des rapports excellents avec toutes ces femmes, toujours.
Quelle intelligence.
Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Voilà. Mais ça, je renverrai à la fin de l'émission à sa biographie, si on veut en savoir plus, évidemment, pour les petits coquins et les petites coquines qui nous écoutent de temps en temps. Maintenant, on va changer de tempo, mais pas de recherche du swing. On va écouter un classique du jazz que Jimmy Lunceford a immortalisé. Ici, on va avoir un traitement bien différent. Et je signale qu'on aura ici deux percussionnistes que tu vas nous trouver sans problème. Tu les annonceras après le morceau, oui. Évidemment. Et ça s'intitule « Blues in the Night, New York, le 10 mars 1959 ». Batteurs.
Et pas des moindres.
Et pas des moindres. Et ce sont.
D'un côté, Jimmy Crawford.
Absolument.
Et de l'autre côté, Ozzie Johnson.
Voilà, à gauche, Jimmy Crawford, à droite, Ozzy Johnson. On réécoutera tout à l'heure, évidemment. Au saxo baryton, c'est toujours Saïb Chiab. Au saxo ténor, Sam the Mind Taylor. Donc ça, c'est un vrai homme, c'est the Mind Taylor, c'est pas n'importe qui. Que dire de plus ? Ben, sinon qu'il y avait 18 musiciens, mm-hmm. des hommes, plus le chef, un homme, c'est Quincy. Et il y avait tout de même, parce que Quincy, il fallait
une femme.
Mais il n'en faut pas une, il en faut deux. Et oui, et là, il y a Melba Liston qui joue du trombone. Et on a toujours notre petite Patty Pianiste. Brown qui est au piano. Mm-hmm. Je trouve qu'il est sympa, qu'il est moderne. Et surtout qu'il est heureux, notre Quincy Jones, n'est-ce pas ? On va continuer avec du swing pur, un classique du genre, avec le même orchestre. Et le titre va très bien dire ce qu'il veut dire. Vous allez voir, c'est Choo 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 Boogie, c'est New York et c'est le 10 mars 1959. Seul batteur hein, cette fois, c'est Ozzy Johnson, il est tout seul là, ce coup-ci. Voilà. Et puis au saxo alto, c'était Phil Woods, notamment il était chargé de jouer de la sirène, si j'ose dire, sur cette musique très chemin de fer tout de même, Choo 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 Boogie. On va terminer avec un morceau tout à fait de circonstance, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, donc c'est la fin de la soirée, notamment pour ceux qui écoutent le jeudi. On va se retrouver, on va pousser un petit peu l'horloge, on va se retrouver au milieu de la nuit pour improviser comme bon nous semble, juste entre nous, hein, juste entre nous, voilà, on est tous ensemble, mais pas trop nombreux, surtout dans la période. Et on va encore écouter la pianiste Patty Brown. Je vous donne rendez-vous After Hours. Thank you. le batteur.
Ossie Johnson.
Voilà, il est tout seul, à nouveau. Mais c'était surtout la pianiste qu'on a écoutée, qu'on a entendue, qu'on a appréciée. La pianiste qui s'appelait Patti Boone. Eh bien, je pense vous avoir convaincu que Quincy Jones a été une figure importante du jazz, brève mais importante, essentiellement dans les années 50, au début des années 60. Il a produit alors de bons arrangements, il a donné de belles interprétations, bien swingantes. Donc ça valait, j'espère, le coup d'écouter ce touche-à-tout de la musique, du moins lorsqu'il s'exprime dans le langage que nous pratiquons et en tout cas que nous comprenons. C'était le cas aujourd'hui, je l'espère bien. Dominique, tu as compris le langage d'aujourd'hui ?
Ah bah absolument,
mon absolument. Bah, on est d'accord, bah, Martine, tu as
bien compris.
Mais la vie est bien faite tout de même. Je voudrais aussi signaler l'autobiographie que Quincy Jones a écrite, qui s'intitule tout simplement Quincy. C'est un émouvant récit, notamment sur la vie et la condition des Noirs américains. C'est un cruel éclairage sur la ségrégation raciale aux États-Unis. Il y a aussi des témoignages de plein d'autres musiciens, de tous ses copains. Je pense à Clark Terry, à Ray Charles, qui sont deux de ses amis proches. Il y a plein d'autres témoignages de son entourage. La plupart du temps, bon, Quincy Jones, il évoque le bop, genre Dizzy Gillespie, il évoque la variété façon Frank Sinatra, Michael Jackson. Il évoque beaucoup ses conquêtes féminines, mais c'est un livre qu'on peut lire qui est intéressant, c'est un bon témoignage, et c'est un garçon éminemment sympathique. Ça a été publié au début des années 2000 par Robert Laffont. J'ai vérifié, ça se trouve dans des boutiques en ligne, donc je sais que ça se trouve dans les boutiques physiques. On peut aller à Limoges, en France, à New York et ailleurs. On va trouver ce livre-là, ça s'appelle « Quincy ».
C'était Swing Time 2020. Du coup, on en a su un peu plus sur Quincy Jones, parce que moi, je connaissais Quincy Jones, mais pas son côté jazz.
Oui, oui, ben non.
Son côté variété.
C'était le côté variété, voilà. Frank Sinatra, Charles Aznavour, enfin un
oui,
peu.
Il a vraiment été sur plein
même,
de...
Même les rappeurs d'aujourd'hui, hein,
oui,
voilà.
Font,
mais nous, c'est ce qu'on aime.
Référence à Quincy
Jones.
C'est
cette partie-là qu'on aime.
D'autres émissions sont en préparation, j'imagine.
Je vais essayer d'en préparer. Mais Dominique, tu nous aides aussi, hein, tu vas en préparer.
J'espère bien, mon cher Alain.
Voilà, donc c'est bon. Donc le monde entier sait qu'il y a des émissions qui sont en préparation.
Eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures la semaine prochaine.
Eh bien, à bientôt tout le monde.
Très bien.
En attendant, sachez qu'il y a plein de rendez-vous sur Swing FM avec le blues, avec le gospel, avec Duke Ellington, avec
les
big bands, avec le bar à swing.
De toute façon...
Oui, le bac à swing.
C'est le bac à swing. Mais bientôt,
Martin.
On la fera le bar à swing, on fera
on
ça.
On espère bien qu'un jour ou l'autre, on fera le bar
oui,
à swing
on est,
aussi, Martin.
On a fini par After Hours, alors forcément...
C'est pour ça que je suis restée sur le
voilà,
bar.
Voilà, on a un petit peu abusé du bar à swing. Bon.
Le bac à swing. Donc, plein de choses, plein de rendez-vous, et puis 24 heures sur 24, cette
c'est
musique,
du jazz.
C'est du jazz.
Et c'est du jazz
et ça
swing.
Voilà. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.